un pas de côté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme, un pas de côté. C'est un magazine qui est réalisé chaque mois en partenariat avec les offices de tourisme Vercors-Drôme qui compte 3 antennes sur le territoire à Saint-Jean-en-Royans, à la Chapelle-en-Vercors ainsi qu'à Saint-Nazaire-en-Royans. Et nous retrouvons comme chaque mois Maëva de l'office de tourisme Vercors-Drôme. Bonjour.
Bonjour Anouchka.
Nous en sommes déjà au numéro 46 du Pas de Côté pour cette édition donc du mois de septembre et nous sommes heureuses comme toujours de vous retrouver pour cette nouvelle édition et c'est donc l'édition de la rentrée.
Et oui, l'été tire doucement sa révérence, laissant derrière lui des souvenirs de journées ensoleillées et des balades en tongs. Les sacs à dos se dépoussièrent, les cahiers s'ouvrent à nouveau et les esprits se préparent pour la rentrée. Mais qui a dit que la rentrée devait être synonyme de routine et de monotonie ? Au contraire, c'est l'occasion parfaite pour aiguiser notre curiosité et redécouvrir les trésors cachés de notre région. Le Royan-Vercors, avec ses paysages à couper le souffle, son histoire fascinante et son patrimoine riche, nous tend les bras. Que vous soyez passionné de nature, d'histoire ou tout simplement en quête de nouvelles découvertes, cette rentrée vous invite à explorer, à apprendre et à vous émerveiller.
Un beau programme, donc tout d'abord pour s'émerveiller, on peut commencer par aller admirer le travail des street artistes, que ce soit dans les rues de Saint-Nazaire-en-Royan ou encore à l'Art Solide, ce centre culturel de Saint-Jean-en-Royan, n'est-ce pas Maëva ?
Oui, et profitez de l'exposition One Two Street Art de l'Art Solide à Saint-Jean jusqu'au 3 novembre. Et dans les rues de Saint-Nazaire, pour admirer le résultat du festival Graff-en-Vallée, il y a un parcours artistique de street art réalisé dans le parc et les rues de la commune. Et retrouvez toutes les infos sur Facebook et Instagram Graff-en-Vallée.
On en parle donc notamment dans notre premier sujet de reportage pour ce pas de côté, puisqu'on écoute Rafou, qui est artiste et fondateur de l'association Graff-en-Vallée, ainsi que l'artiste Géniart, au micro de Patrice, lors d'un plateau radio qui a été réalisé à l'Art Solide en août 2024.
Un pas de côté.
Quand vous parlez de Rurart, c'est, on pourrait dire, une caractéristique de ce programme ?
Oui, c'est une sorte de concept qui, bon, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, puis je pensais que c'était une idée qui traduisait assez bien ce qu'on fait là, à Saint-Nazaire, dans le Royan.
Alors, comment ça s'est opéré, cette connexion avec la mairie de Saint-Nazaire, et puis également ici, l'Art Solide, pour développer tout ça ?
Ah bah avec la mairie de Saint-Nazaire, facile, on a été les voir, et ils nous ont tout de suite appuyés, ils ont été enchantés par l'idée, c'était très agréable de leur présenter notre projet, et ils ont tout de suite suivi, quoi.
C'est un moyen aussi de donner du relief aux différentes rues, aux petites rues de Saint-Nazaire, et pourquoi pas mieux les faire découvrir parce que
tout à fait, parce que Saint-Nazaire, oui, effectivement, ça fait quelques années que je suis dans la région, sur le territoire, et c'est vrai que Saint-Nazaire, ça m'a toujours. C'est un petit village qu'on ne soupçonnerait pas, quoi, parce que quand on passe en voiture comme ça Et en fait, on ne soupçonne pas que c'est tout plein de petites ruelles qui ont vraiment un intérêt, qui sont vraiment jolies.
Il y a quelque chose d'organique, de refermé.
Oui, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le village, à descendre à la rivière. C'est très touristique déjà, donc on peut voir. Mais il ne faut pas hésiter à monter dans le village et à se balader dans les petites ruelles qui sont très jolies. Et donc justement, avec le Graff-en-Vallée, ça sera une manière de découvrir le village et aussi le parc. On a un parc, le parc du château, le parc du château Laurent, qui est très joli. Et c'est là où nos artistes la plupart de nos artistes vont peindre sur les bâtiments et sur les murs du parc. En septembre, on rentre dans une nouvelle phase où on fera des visites guidées tous les dimanches dans les rues du village et le parc. On aura une petite expo aussi. Et date à retenir, le 14 septembre, la fête d'inauguration dans le parc, où il faudra venir nombreux cette fois. Hein. Voilà, il faudra être présent, on vous attend, le 14 septembre.
Voilà, pour un programme comme ça, ça demande aussi quelques moyens financiers. Vous avez mairie qui contribue, d'autres aides.
Oui, alors on tient à remercier la mairie de Saint-Nazaire-en-Royan, qui nous a bien aidé, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Nos partenaires, qui sont le bateau à roues et les grottes de Thaïs, les bonbons du Vercors, confiserie militante, le Vercorsman et bien sûr l'Art Solide, où on est en ce moment en train de parler.
Voilà, donc un certain nombre de structures privées hein, qui...
Oui,
donc,
oui. Et sans oublier les commerçants de Saint-Nazaire-en-Royans qui nous ont aidés. Ouais. Et aussi, il faut mentionner notre cagnotte, parce que principalement, on se finance avec notre cagnotte du Festival Graff-en-Vallée. Et vous trouverez la cagnotte sur Hello Asso, Graff-en-Vallée, Hello Asso.
Alors Graff-en-Vallée était spécialement créé pour cette opération.
Oui, on a monté notre association qui a pour objet de développer les arts graphiques par des actions culturelles et en milieu rural, effectivement, où on se trouve en ce moment.
Et vous êtes l'articulation à ce titre de nombreux artistes hein, de la région, comme Jenny Hart à vos côtés, c'est
voilà.
Ça, pour donner du relief. Bonjour Jenny Hart. Et c'est effectivement des techniques, des pratiques qui évoluent. C'est assez incroyable ce que l'on peut constater maintenant avec ce type d'art urbain qui allie, en ce qui vous concerne, l'imagination, les techniques, de l'intelligence artificielle. Vous allez nous expliquer tout cela pour d'incroyables illusions posées sur les murs et notamment actuellement de l'art solide. Pour des temps forts de collage, hein, partagé avec les enfants, un événement avec Graff-en-Vallée, hein, ça s'insère dans cette opération. Alors quand on parle de votre pratique, peut-on parler de trompe-l'œil ?
Oui, exactement. Moi, j'ai travaillé, donc effectivement, comme vous l'avez dit, je me sers de l'intelligence artificielle pour créer des trompe-l'œil. Mmh. En fait, je suis ostéopathe, je ne suis pas du tout artiste, mais j'ai beaucoup d'imagination. Et en fait, j'avais plein d'idées sur les murs. Je me suis toujours imaginé ce qu'il y avait derrière les murs. C'est vrai qu'à l'époque, on s'ennuyait un peu. On n'avait pas les téléphones, rien. Et du coup, j'imaginais souvent ce qu'il y avait derrière les murs. Et là, c'est revenu, en fait, avec l'intelligence artificielle, où j'ai commencé à jouer avec il y a à peu près 3 ans. Mmh. Et j'ai commencé à bien maîtriser les outils. Et j'en avais plein mon ordinateur, plein mon téléphone. Comme tout le monde a plein de photos sur son téléphone et j'en faisais rien du tout. Et je me suis dit, tout le monde me disait, c'est sympa et tout. Et je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Mmh. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui était l'opposé de l'art numérique. Et je me suis dit, en fait, c'est l'art rupestre, donc le street art. Et donc, je me suis dit, je vais travailler mes images d'intelligence artificielle pour les intégrer dans l'espace urbain. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je suis parti sur la fissure, le trompe-l'œil. Et maintenant, j'évolue un peu avec les fenêtres condamnées, avec des moellons ou des portes condamnées, pareil. Et j'essaye d'imaginer un monde derrière. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici à l'Art Solite. Vous pouvez passer voir où j'ai fait de gros collages et des petits qui sont cachés à droite à gauche. Donc, il faut bien regarder de partout.
Alors, pour illustrer un petit peu ce que vous pratiquez, si on regarde une surface, on a l'impression qu'on a cassé le mur. Et que derrière se dévoile tout un décor.
Exactement.
Que vous avez composé. Mais comment faites-vous pour imaginer, fabriquer une image ?
Alors, l'image avec l'intelligence artificielle, qui est vraiment un outil, hein, je considère que c'est vraiment un outil et qu'il y a un peu la polémique des artistes que je comprends sur l'utilisation de l'image d'intelligence artificielle dans l'art. Mais je trouve que c'est quand même un outil, il faut des idées derrière. On peut faire des jolies images avec l'intelligence artificielle, mais faire vraiment ce qu'on souhaite, être précis, ça devient très compliqué. Ça peut me prendre des jours pour arriver à créer l'image que je veux. Et donc, en fait, je crée des prompts, c'est des phrases que j'écris dans un logiciel qui est l'intelligence artificielle et qui va me générer une image en fonction des mots que je vais utiliser pour générer cette image. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais ça, que j'imprime sur du papier ou ici sur du papier peint. Et ensuite, je vais le découper au cutter de précision pour vraiment l'intégrer dans le mur et qu'il n'y ait vraiment plus que la surface de la fissure qui ressorte et que, voilà, que ça fasse le plus de trompe-l'œil possible. Quoi.
Un pas de côté.
Merci donc à Rafou, l'artiste fondateur de l'association Graff-en-Vallée, ainsi qu'à l'artiste Jenny Hart, qui était au micro de Patrice lors de ce plateau radio réalisé à l'Art Solite en août dernier. À noter que l'été Rurart se poursuit en septembre avec une série d'événements autour du street art à l'Art Solide, donc à Saint-Jean-en-Royan, donc le centre culturel, ainsi que dans les rues de Saint-Nazaire-en-Royan. L'artiste Rafou assurera notamment des visites guidées du parcours d'œuvres qui s'est dessiné tout au long du festival à travers les rues et le parc de Saint-Nazaire-en-Royan. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir dans le détail la petite histoire qui se cache derrière chaque peinture. Vous avez rendez-vous tous les dimanches jusqu'au 29 septembre à 11h ou à 14h à l'office de tourisme de Saint-Nazaire. Côté tarif, il faut compter 8€ par adulte et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et comment peut-on contacter l'association Maëva ?
Vous pouvez les contacter sur Graff-en-Vallée, Facebook et Instagram.
sur les réseaux sociaux donc plutôt pour l'instant. Et pour notre deuxième sujet, à l'occasion des Journées du patrimoine 2024 qui auront lieu les 21 et 22 septembre, on s'intéresse aujourd'hui à un symbole du patrimoine royanais, il s'agit de la tournerie tabletterie. Une statue a été récemment installée place Maurice Faure, qui s'appelle également donc la place de la Halle et qui se situe à Saint-Jean-en-Royans. Elle représente un tourneur sur bois. Et donc ça permet de s'intéresser au monde de la tournerie de tabletterie qui jadis battait son plein sur le Royans. On écoute tout de suite Patrick Bell, artisan et auteur de la statue, au micro de Patrice.
Un pas de côté.
Un petit jet d'eau qui sort de l'outil du tourneur. Il tourne donc, c'est un mortier en fait. Même le mortier est à l'échelle 1 alors que la statue n'est pas à l'échelle 1. C'est un petit mortier, donc il est en train de finir. C'est une statue, juste une ombre en fait. Ce sont des gens qui souvent travaillaient dans la pénombre, à la lumière d'une petite ampoule, toute petite ampoule. Et quand on arrivait, ça c'est des souvenirs d'enfance, dans leur atelier, ben, on voyait juste une ombre, une forme humaine, mais voilà, c'est tout. Et on entendait le bruit du tour, qui là est retranscrit par le bruit de l'eau. C'était une atmosphère feutrée, ce que j'ai essayé de retranscrire, et bon, là ça me va.
Voilà. Ce qui était confidentiel avant, dans la pratique du métier, chacun était un petit peu dans différents endroits assez cachés. Là, c'est en plein jour, c'est une belle symbolique finalement pour retraduire ce métier.
Oui, c'est une belle symbolique. C'est ce travail que j'ai réalisé avec tous les copains aussi qui travaillent le bois.
On le précise, Patrick, hein, on souligne que c'est peut-être le seul indice en présence sur la commune de Saint-Jean-en-Royans qui nous rappelle ces décennies d'industrie de la tournerie-tabletterie.
Oui, une centaine d'années, hein, 1880 et 1990, ils ont un peu 110 ans d'industrie du bois dans le Royans, le Royans et le Vercors. D'ailleurs, là, j'en profite d'avoir le micro pour remercier au moins deux personnes qui ont vraiment travaillé avec nous, donc M. Borel, Edmé Borel, avec qui est une aide précieuse sur le site des Angivaneurs, hein, sur le travail du site des Angivaneurs, et éventuellement aussi Catherine Flamand, qui a été vraiment aussi quelqu'un qui nous a apporté, qui est venu d'extérieur, qui ne connaissait pas le travail du bois et qui nous a apporté...
Ouais, une mise en œuvre facilitante, on pourrait dire.
Une mise en œuvre facilitante, oui. Puis quelqu'un qui avait un regard extérieur, oui, assez pointu, pas forcément avec nous, donc c'est vraiment, ça a été un travail d'une équipe à trois dans un premier temps, et un travail très enrichissant, important, et puis bon, voilà, mettre au jour le 100 ans, un siècle, le travail du bois dans le Royans, c'est important, on doit quand même préserver cette mémoire, et là, on pourra voir le site web, il sera accessible, car on va mettre dans le mur donc un QR code. Et ça permettra aux gens de flasher ce QR code et d'être sur le site Les Angivaneurs. Site qui sera hébergé, en principe, par la commune du Royans.
Fin juin, donc. Okay. Un site qui existe maintenant depuis quelques années. Ce sera l'occasion de le remettre un petit peu en présence.
C'est un site, oui, voilà. C'est qui existe quelques années. Ça sera l'occasion de le remettre, de l'activer et de le rendre vraiment accessible à tous les publics, parce que c'est quand même un gros travail, et c'est une belle histoire, c'est une histoire d'un siècle du travail du bois dans le Royans. C'est important pour les gens qui passent dans notre Royans de connaître cette histoire-là. Elle est là, il faut en profiter.
Les Angivaneurs, le titre effectivement pour le webdoc, mais aussi quand on parle d'Angivaneurs dans le Royans, on va rappeler ce dont il s'agit. Ça peut concerner les métiers du bois, mais pas que forcément.
C'est pas que les métiers du bois, en fait, c'est l'art des gens qui n'ont pas grand-chose et qui se débrouillent avec trois bouts de ficelle et deux bouts de bois de faciliter leur travail. C'est vraiment cet art-là, et dans le Royans, c'était vraiment reconnu. Oh, il y en avait qui étaient vraiment très très forts. Et en gros, ils bidouillent aussi quelque chose pour leur faciliter le travail depuis toujours.
Voilà, la bidouille est très astucieuse selon les trouvailles des uns et des autres, ce qui a fait aussi l'industrie du bois.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a fait l'industrie du bois, l'amélioration de l'industrie du bois. Après, bon, les l'industrie du bois, pas que l'industrie du bois, a décliné parce que bon, c'était des entreprises de main-d'œuvre uniquement. La main-d'œuvre est très chère et les donneurs d'ordre sont allés voir dans d'autres pays, malheureusement, pour voir si c'était plus rentable de faire faire ailleurs, ou en Asie, hein, évidemment.
Une histoire un petit peu à l'image du textile hein, qui s'est effondrée.
Une histoire à l'image du textile qui s'est effondrée, une histoire à l'image du cuir sur roman. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi une autre association qui s'appelait... dont je faisais partie, c'était pour promouvoir le design sur roman, le bassin romanais, avec les chaussures. Kélian, Jourdan, enfin Clergerie, tout ça. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi eux non plus à surmonter cette crise d'exportation dans des pays asiatiques. De savoir-faire, on n'a plus de savoir-faire sur la chaussure, comme sur le textile. Quoique le textile, on a quand même aussi des entreprises qui sont encore très très performantes, malgré ça, hein, sur le Royaume, il faut bien le dire aussi. Il faut quand même dire qu'une entreprise reste, elle est très très performante. Mais bon, dans le bois, malheureusement, il n'y a plus d'entreprise véritablement de tournerie, tabletterie.
Voilà, à part entière, mais il y a peut-être plus confidentiel ce qu'on appelle des niches. Dans le textile, c'est le cas, dans le bois aussi. Ben, notamment, Patrick, vous, par du travail de haute valeur ajoutée concernant la lutherie et des pièces.
Oui, bien sûr. Ben, ce sont des niches, mais ce sont vraiment des toutes petites niches dans lesquelles, un peu par hasard d'ailleurs, je me suis spécialisé. J'en connais pas beaucoup quoi, sur le Royan, mais c'est l'industrie telle qu'est du bois ne reviendra pas. Quoi. L'industrie du bois telle qu'on l'a connue, c'est fini. C'est vrai que le travail du bois continue. Hein. D'une autre manière. Sur les maisons en ossature bois, il y a plein de projets qui sont intéressants, hein, sur des cellules en ossature bois. Il y a plein de trucs qui se font. Hein, c'est une autre époque. C'est tout.
Et là, place de la Halle, on peut imaginer qu'il y avait un petit peu des tourneurs logés de part et d'autre sur la place dans les environs. Place,
si on regarde derrière nous, il y en avait des menuisiers ébénistes, là, hein, ouais. la place, là. Une tournerie fort qui s'appelait, donc qui faisait de la machine-outil pour les. Lui, alors, c'est un angivaneur de première catégorie parce qu'il a inventé plein de choses, notamment le nez de Saint-Jean. Quand je dis nez de Saint-Jean, c'est la partie filetée qui nous permettait de mettre des outils sur les tours et qui était propre à Saint-Jean. Ce qu'on appelait, nous, le nez de Saint-Jean. Alors, c'était un peu aussi pas toujours forcément très intéressant parce que le Jura, ils avaient aussi leur nez à eux, donc leur filetage propre. On ne pouvait pas donc trop changer les outils. Enfin, il fallait bidouiller quelque chose, comme d'habitude.
Donc un bel écrin, on peut le signaler, puisque ce petit coin de place a été complètement rénové, plus des fresques à côté. Hein,
oui, place. Tout à fait. Bah, les fresques ont été faites par Romain Charvet, en relation donc avec Monsieur Morin et moi-même. Donc nous avons choisi donc les fresques. Et c'est vrai que c'est un travail romain, il a très très bien travaillé là aussi. Il a vraiment travaillé en harmonie avec nous. C'est-à-dire qu'on lui a donné donc le site des angivaneurs, je lui ai fait passer. Il a regardé et à partir de là, il nous a fait des propositions. Quoi. Et bon, bah, plusieurs, hein, même beaucoup. On a été un peu exigeants, mais le résultat, je crois, en vaut la chandelle, comme on dit. C'était intéressant.
Un pas de côté.
Merci à Patrick Bell, artisan donc et auteur de cette statue du tourneur sur bois qu'on peut admirer, place Maurice Faure ou place de la Halle à Saint-Jean en Royan. Il s'agit donc d'un tourneur sur bronze, Maëva.
Oui, et si vous voulez en admirer un en chair et en os, vous avez la dernière tabletterie de France, les cuillères du Royan à Saint-Jean. Vous pouvez rencontrer Henri Desfonds et observer les étapes de fabrication des ustensiles en bois. Réservez votre visite par téléphone au 04 75 48 64 56.
Et on en profite pour vous rappeler donc également les dates des Journées du patrimoine 2024. Ce sera donc le 21 et le 22 septembre 2024. Et pour terminer cette édition de rentrée du Pas de Côté, nous vous proposons maintenant de découvrir ou de redécouvrir l'exposition arpenteur du souvenir 80 ans après, d'Étel Buisson, au mémorial de la Résistance à Vassieux en Vercors. Comment la Résistance fait trace dans le paysage, comment les batailles du Vercors 80 ans après peuvent faire souvenir dans la galerie d'exposition du mémorial. Étel Buisson revient donc sur sa démarche de création et sur la manière dont elle a arpenté cette histoire à travers les paysages du Vercors, son histoire familiale et la mémoire collective des habitants. On écoute tout de suite un extrait de l'entretien d'Étel Buisson au micro de Charlène.
Un pas de côté.
Bonjour Étel Buisson.
Bonjour.
Vous êtes artiste plasticienne ainsi que architecte et maître de conférences. Et on vous reçoit aujourd'hui au micro de Radio Royans Vercors pour parler de l'exposition que vous avez co-réalisée avec Claude Philippot qui est photographe. Et donc cette exposition s'appelle « Arpenteur du souvenir 80 ans après ». Et on peut la voir en ce moment au Mémorial de la Résistance du Vercors à Vassieux. Et donc pour commencer, moi je voulais vous demander de décrire avec vos mots l'exposition pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent dessiner un cadre pour voir ce qu'on peut y trouver.
Je vous remercie de m'inviter pour parler de cette exposition. C'est une exposition qui est organisée avec le Mémorial de la Résistance en Vercors et qui fait suite à une première exposition que j'avais présentée l'année dernière qui s'appelait « Grand-père, comment t'appelles-tu ?». Donc c'est un honneur d'être invitée à nouveau. Déjà, c'est un honneur d'avoir la confiance de l'équipe et de pouvoir continuer à montrer un travail qui décrit à la fois, moi, mon entrée dans le territoire, à savoir une entrée familiale, une entrée mémorielle, et puis explorer aussi des manières de représentation qui dépassent le livre ou la deux dimensions, puisqu'on rentre aussi dans une exposition, à savoir une scénographie. Nous avons proposé un parcours assez linéaire, finalement, mais qui traverse l'histoire qui s'étend donc du 13 juin 44 au 21 juillet 44. Et ce sont les deux batailles clés qui sont présentées sur un pupitre et des batailles clés, bien entendu, on ne voit pas de figurant, mais on est happé par un paysage parce que le paysage, le territoire a vu ces batailles il y a 80 ans. Et elles sont situées, ces grands panoramiques sont situées au centre et viennent encercler une carte du Vercors que l'on parcourt du nord au sud, de Saint-Nizier du Moucherot, la première bataille, à Vassieux, la bataille du 21 juillet. Et cette carte qui est enserrée par ces deux grandes photos de Claude Philippot, c'est une carte qui fait environ 7 mètres. Et on vient découvrir, en fait, au sol, une carte dessinée à la craie. Donc on va se dire, évidemment, qu'elle va disparaître au fur et à mesure. Mais c'est une analogie à la mémoire, et la mémoire ne peut être réactualisée que si on participe à la transmettre. Et c'est le rôle notamment du mémorial. Et ils m'ont promis de redessiner la carte au fur et à mesure, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, elle est présentée au sol et on a vraiment cette allée et on a ce retour sur l'histoire après, à savoir les morts qui ont été enterrés, qui ont été honorés dans les deux nécropoles. Et c'est le verso des photos que nous avons présentées, à savoir, on commence par la nécropole de Vassieux et on finit par le mémorial de Saint-Nizier du Moucherot.
Donc c'est vraiment une exposition où le visiteur est en démarche presque d'arpentage. On découvre petit à petit, on arpente l'histoire à travers vos œuvres. Et j'ai l'impression que c'est aussi la démarche que vous avez adoptée pour la création de ce projet. Vous avez arpenté le paysage, les stèles, les différentes stèles commémoratives et aussi votre histoire familiale, puisque votre famille a été lourdement impactée également pendant cette Seconde Guerre mondiale.
Oui, ça fait essentiellement l'objet de la première exposition, à savoir que j'ai présenté en fait le parcours de mon grand-père, Troul Rugère, qui a été déporté aux Juifs, mais aussi Hitchcock Kleinfinger, qui a été fusillé au Mont-Valérien, ou encore de Samuel Mellement, dit Jean Douillet, qui était donc dans la Résistance, le jeune cousin de ma mère, qui à 20 ans a été fusillé au charnier du Polygone. la dernière exposition, je m'en suis arrêtée là. Mais par ailleurs, j'ai voulu commémorer aussi le Vercors, en quelque sorte, qui a permis à ma mère d'être sauvée, qui est enfant cachée à Néondre. Et en remerciement à ce sauvetage, elle a remercié le Méaudre, les Méaudrais. Et il y a une plaque qui est présente à la mairie. Et curieusement, c'est la dernière plaque que j'ai... Alors, je fais un travail de frottage, c'est-à-dire que je prends un calque et je viens prendre l'empreinte des plaques qui sont apposées sur le territoire, maison, en plein champ. La plupart du temps, d'ailleurs, elles sont assez isolées, ces stèles, ces plaques commémoratives. Et donc, j'ai démarré avec, fini avec celle-là, celle où ma mère remercie Méaudre de l'avoir sauvée. Et ce calque qui est frotté vient à l'intérieur d'une frise. Et alors là, c'est assez étonnant et extrêmement émouvant de voir qu'elle vient dans une multitude de stèles prendre place là, et elle est, donc c'est l'original hein, que je montre, et elle est rétroéclairée, et l'on voit par transparence qui est restée, c'est-à-dire ce que l'on touche, et ensuite ce qui est en creux, c'est ce qui est vide, ce qui n'est pas dessiné, et c'est la lumière qui rentre par les mots en fait. Et ça fait l'objet d'un mur qui est à l'opposé de notre entrée. En fait, on ne voit pas quand on entre. On ne découvre que quand on revient. Donc, ce travail de frottage, là, donc je démarre avec, je finis avec, on va dire, la stèle, enfin, pas la stèle, mais la plaque sur laquelle ma mère a écrit ces mots-là en remerciement. Et finalement, on s'aperçoit que les stèles qui sont nombreuses Vercors sont des stèles institutionnelles, des stèles commémoratives personnelles, des stèles qui sont associatives. Et c'est assez étonnant, en fait, de pouvoir à la fois les réunir là et aussi d'en voir la variété, la matérialité. En tout cas, mon travail de plasticienne regarde ces aspects-là. Et il y a aussi un élément important ici, c'est l'échelle 1, ce qu'on appelle l'échelle 1. On est sans transformation du format qui nous est donné, à la différence, on va dire, d'une réduction, d'une maquette ou de quelque chose qui va réduire l'échelle, hein, un modèle réduit, ce qu'on peut appeler un modèle réduit. Ici, on est vraiment à l'échelle 1 et les grains apparaissent, les grains des matérialités qui peuvent être en métal, en pierre, en bois, et ça peut être multiple, hein, vraiment les supports. D'abord, c'est une rencontre avec un territoire. Je fais vraiment ce travail d'arpentage. Vous parliez d'arpenter. D'abord, c'est le titre de l'exposition. Et il y a, quand j'ai dessiné la carte, là, pour le coup, qui est réduite, où 24 cm égale 3 km. Et ça a créé, en fait, une relation au corps. Et donc, il fallait que... Moi-même, je me promène dans le territoire et que je réfléchisse à la représentation des codes. Je n'ai pas fait des courbes de niveau, c'était pas ça la question, mais c'était bien d'exprimer où sont les montagnes, par où je passe, où sont les petites rivières, et commencer à annoter les lieux que j'ai parcourus et que j'ai surtout photographié également. Alors, les photos de Claude viennent en écho avec ce travail, moi, que j'ai fait, qui est plutôt un travail d'arpentage, les photos de Claude, mais ce sont des photos déjà d'un volume extraordinaire, puisqu'elles font jusqu'à 1,65 m, voire plus de haut, 1,10 m. Ce sont des très, très grands formats. On a l'impression qu'on rentre dans l'image, et ou même on se perd dans l'image. Et face à ces grandes images, moi, j'ai arpenté, en fait, les problématiques du territoire et je me suis posé la question, ben voilà, un massif. Il est imprenable parce qu'il y a des falaises et il est pris parce qu'il y a des chemins que l'on emprunte ou qu'il y a des pas que l'on va prendre. Et à chaque fois, j'ai fabriqué, en face donc, de ces très grandes photos, ce que j'ai appelé des blocs, ce qui est en fait au plus des, on va dire, des, à chaque fois, il y a 9 photos, hein. Pour raconter des problématiques, la problématique de l'eau et du minéral et du relief, ce que j'ai appelé la piase sialée, La problématique des chemins, la problématique des falaises, je l'ai déjà dit, la problématique aussi des bruyants, qui est un accès entre Saint-Nizier du Moucherotte et les Gorges d'Engin, qui est un lieu assez étonnant, qui ne prend presque pas la lumière et qui est tout moussu, dans lequel je me suis un peu dit qu'il y avait des présences. Et effectivement, il y avait beaucoup de passages qu'empruntaient les résistants, les maquisards, les réfractaires. Tout ce monde, en fait, grouillait, fourmillait, traversait ce territoire, et on a énormément de récits de chemins. Et c'est en quoi l'arpentage, que moi j'ai fait en tout cas pour essayer de remettre dans la peau, dans les pas de toutes ces personnes, est animé par ces paysages.
Un pas de côté.
Voilà pour cette discussion téléphonique avec Estelle Buisson, artiste plasticienne, co-autrice avec Claude Philippot de l'exposition Arpenteur du Souvenir, 80 ans après, au Mémorial de la Résistance en Vercors à Vassieux. Elle répondait aux questions de Charlène. Et côté pratique, Maëva, comment et quand peut-on découvrir cette exposition ?
Vous pouvez la découvrir jusqu'au 25 avril 2025. Retrouvez tous les horaires d'ouverture sur le site du Mémorial.
Et plus généralement, Maëva, est-ce qu'on aurait d'autres propositions pour nos auditrices et nos auditeurs pour prolonger les vacances en ce mois de septembre ?
Pour profiter encore de cet été indien, vous pouvez partir à la découverte des Échos de la Comble Aval, une rando, on va dire sonore, à découvrir sur la Gazette ou sur notre Facebook qui vous emmènera à Saint-Laurent et à la Comble Aval.
Et où peut-on trouver la Gazette de l'Office de Tourisme ?
Dans tous vos commerces et à l'Office de Tourisme.
Et également sur le site internet, je crois, en téléchargement ?
En téléchargement, et vous avez également la page agenda.
Eh bien, merci beaucoup Maëva, c'est déjà la fin du magazine Un Pas de Côté, le magazine d'évasion touristique en Vercors. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioroyan.fr et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages. Merci Maïva.
Merci Anouchka.
Et merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt.
Un pas de côté.